Bonjour à tous. Je crois qu'on finira un peu en avance, mais il y aura plus de place pour l'Assemblée générale. Je vais faire ce que je peux, parce que c'est vrai, ma vue, elle n'est pas terrible. J'ai un œil qui m'épuise au point de près à cause des gouttes que je dois mettre dedans. Et donc, c'est assez compliqué de lire. J'ai deux images qui se superposent, une à peu près bien, et puis l'autre qui est mise au point impossible de près. Donc c'est compliqué. Alors si vous voyez que je ferme un œil de temps en temps, vous inquiétez pas, je ne vous fais pas des clins d'œil. C'est parce que ça m'aidera à bien voir mes notes, mais je les ai imprimées quand même en grand, bien plus grand que d'habitude, et ça devrait quand même aller. Ben, le sujet de ce matin, ça va être entendre et voir le Seigneur. Tout à l'heure, Alex disait ça dans la présentation, hein, est-ce qu'on a vraiment envie d'être en communion avec lui, de le voir agir dans notre vie, de l'entendre? Et c'est exactement ce que j'ai eu sur le cœur de partager avec vous ce matin. Et j'ai choisi de l'introduire par un tout petit morceau de violon pour vous faire écouter deux façons de jouer exactement les mêmes notes. Et ça va illustrer un peu que ben, le Seigneur, il peut nous dire la même chose de plusieurs façons différentes et il adapte sa façon de s'adresser à nous en fonction de ce que nous sommes, de ce qu'il sait de nous. Parce qu'il s'adresse toujours avec nous, à nous, d'une façon infiniment personnelle, parce qu'il nous connaît. Alors je vais essayer, j'espère y arriver. Alors, j'ai choisi un chant qu'on connaît tous et j'espère qu'on le chantera à la fin. C'est Sonde-moi, ô Dieu, parce que c'est tout à fait dans la lignée. Alors, je vais vous montrer deux façons de le commencer, le chant. Alors, une première, puis une deuxième. Maintenant, une deuxième façon. Est-ce que vous remarquez une différence? Laquelle? Oui? Comment? Oui, pourtant, c'est les mêmes notes. C'est exactement la même note.
C'est plus nuancé, on dirait plus nuancé.
Ouais. Donc la deuxième fois, en fait, je suis resté sur la même corde, qui est une corde plus grave, et du coup, le son a plus de coffres. Et pourtant, je joue exactement les mêmes notes. C'est un avantage du violon, hein, c'est qu'on peut interpréter en fonction de la corde qu'on va choisir, de la façon dont on va appuyer avec l'archet, le doigté qu'on va choisir, on donne une couleur complètement différente au même texte musical. Bon, le but n'est pas de faire un cours de violon, mais c'est pour vous faire entendre. Faire entendre en fait que ben, le Seigneur, quand il s'adresse à nous, il choisit la bonne corde. Parce qu'il pourrait nous le dire avec dureté, mais quelquefois, oui, il nous secoue un peu, mais quelquefois, il s'adresse à nous avec une grande douceur, presque dans le silence, dans le murmure, et il adapte vraiment sa façon de s'adresser à nous, un peu comme j'ai essayé de le faire avec mon violon. Ben oui, parce que Dieu nous parle dans notre vie, heureusement. Hein, quand on a envie de vivre en accord avec lui, ben il ne va pas nous laisser comme si on était face à un mur. Vous savez, quelquefois, il n'y a pas d'harmonie avec des personnes qu'on côtoie et c'est froid, on ne se parle plus, on ne se parle pas, c'est silencieux, c'est glacial et ça, c'est dur. Mais le Seigneur ne fait pas ça. Il cherche toujours à communiquer, à nous communiquer son amour, à nous guider, à nous aider, à nous inspirer, à nous faire vraiment entrer en lui, dans son essence, dans sa présence. Et donc on va parcourir plusieurs façons, je prétends pas toutes les couvrir, hein, parce qu'il y en a tellement, plusieurs façons que Dieu possède à sa disposition pour s'adresser à nous, pour nous guider, pour nous montrer son amour. Et donc on va parcourir des bons morceaux de la Bible. Par exemple, si on se souvient du moment, un moment qui est que José aime beaucoup, il est souvent cité en exemple, José. T'es la tête de turc de l'Église. Ben oui, quand Dieu a donné les 10 commandements, c'était comment l'ambiance? Vous vous en souvenez? Ben les Israéliens, ils ne la ramenaient pas, comme on aurait envie de dire. Ils étaient tous là, ils voyaient la montagne qui fumait, ils voyaient du feu, il y a ça, la terre tremblait, ils étaient terrorisés. Au point qu'ils demandaient à Moïse, écoute, parle-nous toi-même, c'est mieux. Parce que si c'est Dieu, oh, ils étaient terrorisés. Et il leur était même dit que si même une bête touchait la montagne, elle devait être lapidée sur place. C'était un moment où ils ont vu la puissance de Dieu. Mais si Dieu s'est adressé à eux de cette façon-là, c'est sûrement parce qu'ils avaient besoin d'être un peu secoués. Ils partaient tellement facilement à côté. Et Dieu leur a montré sa force. Mais Dieu ne s'est pas du tout toujours adressé de cette façon-là. J'aime beaucoup l'histoire d'Élie, beaucoup plus tard. Vous savez, après avoir tué les prophètes de Baal, vous savez, quand il y a eu la longue sécheresse, ensuite la pluie qui est tombée, et puis Élie qui a connu un haut très haut, et très peu de temps après, un bas très bas, quand Jézabel l'a menacé de mort, il s'est enfui dans le désert. Et dans le désert, bah, Dieu est allé le rechercher, Dieu ne l'a pas abandonné. Et là, il nous est dit, c'est dans 1 roi, vous pourrez aller le lire, 1 roi 19, mais on ne va pas le lire tout de suite. Ben, Élie s'attendait à ce que Dieu parle dans la tempête. Parce que Dieu lui a dit, je vais passer, je vais venir te voir. Et puis, devant Dieu, il y avait une tempête. Oh, les rochers, tout bougeait, menaçait d'être arrachés. Et Élie s'attendait sûrement à ce que Dieu parle à ce moment-là. Mais non. Et après la tempête, un tremblement de terre. Alors il a dû se dire, oh, ça y est, Dieu va me parler. Je me prépare, je me tiens à l'entrée de la caverne. Mais rien. Dieu ne lui a pas parlé là, au milieu de la tempête. Et juste après, un feu. Vous imaginez comme ça, le feu qui prend comme ça dans la nature, près des rochers. C'est un miracle, mais Dieu va parler à ce moment-là, c'est prodigieux. Rien. Et puis juste après, soudain, un moment de silence. Et Dieu va s'adresser à Élie sous la forme d'un murmure doux et léger. Dieu a choisi la corde de son violon. Il sait que Élie, bah oui, ce jour-là, il fallait s'adresser à lui exactement de cette façon-là. Et il va l'encourager. Il va lui envoyer un ange pour lui donner à manger. Comme ça, au milieu du désert. Rien n'est impossible au Seigneur. Et l'ange va lui dire, allez, Élie, tu manges. Et parce que la route est trop longue pour toi. C'est rare, hein? La route est trop longue pour toi. Dieu sait très bien qu'il va lui demander quelque chose qui va être dur physiquement. Alors il le nourrit de la bonne façon. Et Dieu donc s'est adressé à Élie exactement sur la bonne corde pour l'encourager. Parce que Élie, bah, c'était un homme, c'est écrit dans le Nouveau Testament, un homme tout comme nous. Puis il a prié et le ciel a été fermé. Il n'y a pas plu. Et il a reprié et il a plu. Et bah, on nous dit dans le Nouveau Testament que c'était un homme exactement comme nous. Avec des moments hauts et des moments bas. Parce qu'on le voit, hein, et au début, au fil de l'histoire, quand il avait fait pleuvoir, c'était quand même sous l'action de sa prière, vous imaginez quand même, mettez-vous à sa place de vivre un moment aussi fort, il y a une grande sécheresse à sa parole, je ne sais plus combien de mois, d'années après, il revient et à sa parole, sous l'action de sa prière, la pluie arrive. Quand même. Et il nous est dit qu'on est comme lui. Il est comme nous. Et Dieu s'est adressé à lui de la bonne façon. et il s'adresse à nous aussi, exactement de la bonne façon, et sous l'action de la présence et de la parole de Dieu, il va être rendu capable de faire des miracles dans sa vie. Donc Dieu, c'est un exemple, il a pris la bonne corde pour lui jouer la phrase, lui dire la phrase qu'il voulait lui dire. Mais ce n'est pas la seule façon que Dieu s'adresse à nous. Il peut s'adresser aussi directement à notre être intérieur. Et je pense qu'on a tous déjà vécu ces moments-là où, oh, ça y est, Dieu m'a parlé, j'ai reçu une parole. C'est comme si ça ne passait pas par l'oreille, mais que ça atteignait directement l'intérieur. Et je ne sais pas si je vous ai déjà raconté une expérience que j'ai vécue en Allemagne quand j'étais à mon service militaire. Je ne sais plus si je vous l'ai déjà raconté ou pas. Je cherche dans vos yeux. J'arrive à voir. Comment ? Oui, bon. C'est vrai, j'en ai raconté tant que ça ? Bon, je vais vous raconter. Si jamais je vous l'ai déjà dit, vous me dites, bon, c'est bon, on connaît l'histoire. C'était à l'époque où j'étais assez engagé dans l'église de Liévin où j'étais. Et puis mon pasteur, il voulait vraiment me pousser pour aller dans une école biblique. Il me voyait pasteur. Et moi, c'est vrai, je me voyais à l'écoute du Seigneur, mais pas forcément de la façon que lui l'envisageait pour moi. Mais seulement, j'étais au pied du mur, une école biblique, il y avait des moments où il fallait s'inscrire et il fallait que je donne ma réponse au moment, dans cette période-là. Évidemment, moi, j'étais dans de beaux draps. Je disais au Seigneur, « Seigneur, moi, je veux faire ta volonté, mais là, j'ai besoin d'une réponse claire et nette pour dire à mon pasteur, oui, je vais m'inscrire ou je ne m'inscris pas. » Et il y avait déjà des frères et des sœurs dans l'église qui avaient commencé à mettre de l'argent dans le tronc pour me payer l'école biblique. Donc, on pouvait me dire, c'est des confirmations. Il y avait déjà de l'argent qui était prêt. Moi, je pense que je n'aurais pas eu à faire de sacrifice. C'était déjà tout frais payé, quoi. Mais je voulais vraiment faire ce que le Seigneur voulait pour moi. Alors, j'ai prié. J'ai dit, écoute, Seigneur, il faut une réponse. Alors, je vous l'ai raconté ou pas ? Je n'ai pas l'impression. Je continue. Et puis, dans cette période-là, je faisais mon service militaire. J'étais en Allemagne. Et puis, il y en a, ils ont des mauvais souvenirs de leur service militaire. Moi, j'en ai beaucoup de bons. J'étais en Allemagne, et dans une brigade franco-allemande. Et puis, je travaillais ma journée. J'étais à l'armée, à la caserne. Et puis, à 5 heures, j'avais fini ma journée. Donc, c'était bien, quoi. J'étais nourri, logé, blanchi. Le soir, je pouvais faire ce que je voulais. Et j'avais cherché une église. J'avais trouvé une église. Et donc, je fréquentais une église, des frères, des sœurs chrétiens là-bas en Allemagne. Et j'étais franchement heureux. J'étais libre. Je pouvais faire ce que je voulais de mes soirées. Que voulez-vous ? En plus, on me donnait de l'argent. C'était super. Et donc, j'allais dans cette église. Et puis, le week-end, je pouvais aller dormir où je voulais. Donc, j'allais dormir chez un couple qui aurait pu être mes parents, hein. Ils s'appellent Hilde et Alex. D'ailleurs, Jill les connaît. Donc, je dormais chez eux le week-end. Et puis, voilà. Ce week-end-là, le lundi suivant, je devais partir en manœuvre. Et comme tous les bidas, j'avais la clé importante. Vous savez, c'est le seul endroit qui est à nous dans la chambre avec notre cadenas, notre armoire. Et donc, j'avais la clé autour de mon cou avec une ficelle. Et puis, voilà. Donc, j'avais passé le week-end chez eux. Et puis, je regagnais ma caserne au matin. Je savais que j'allais partir en manœuvre. Et puis, dans l'autobus, j'étais pas tranquille. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais je ne savais pas quoi. Mais il y a quelque chose. Ça a dû déjà vous arriver. Vous sentez qu'il y a quelque chose, qu'est-ce qui va pas ? Qu'est-ce qui va pas ? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, en arrivant dans ma chambre, il fallait que je mette mon treillis, mon équipement militaire. Ah, puis j'arrive à mon casier, ma clé, ma clé, elle n'est plus là. En fait, pour me doucher, je l'avais posée sur la tablette de la salle de bain et puis j'avais oublié de la remettre. Et il n'était pas question d'aller la rechercher, de revenir, il n'y avait pas le temps. Donc, la grosse pince qu'on a à l'armée, on a coupé le cadenas et puis voilà. Et ensuite, j'étais conducteur de poids lourd, on est parti en manœuvre, et puis j'étais sur la route, et puis vraiment, brutalement, sur la route, vraiment le Seigneur m'a parlé avec une clarté que je ne pouvais pas contester que c'était lui qui s'adressait à moi. Et il m'a dit, tu vois Emmanuel, tout à l'heure, tu n'étais pas tranquille. Tu sentais bien qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Il te manquait la clé, tu ne savais pas, mais moi je le savais. Et tu as bien senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Eh bien, pour ta vie, mais vraiment, il m'a parlé de cette façon-là, hein, sur la même corde. Et il m'a dit, tu vois, pour ta vie, si tu prends une mauvaise décision, ne t'inquiète pas, tu le sentiras. Je ne te laisserai pas tranquille. Je sais que tu veux faire ma volonté. Alors, si jamais tu prends une mauvaise décision, ça ne passera pas inaperçu. T'inquiète pas. Et vraiment, j'ai eu la réponse du Seigneur. Et comme dans mon cœur, je ne le sentais pas, cette école biblique, ben j'ai dit, ok Seigneur, je vais dire non. Parce que pour moi, je pense que c'est ça. Je pense que ce n'est pas la voie que je dois suivre. Et puis, ben, j'ai revu mon pasteur, je lui ai expliqué, il n'était pas d'accord. Il m'a dit, Manu, je pense que tu te plantes complètement. Ben, je lui ai dit, moi je pense suivre ce que le Seigneur veut pour moi. Alors c'est non. Alors évidemment, on n'était pas d'accord. Mais tant pis, ce qui comptait pour moi, c'était d'avoir choisi la voie que le Seigneur voulait pour moi. Vous voyez, Seigneur, il peut nous parler. Il y a des moments, ben, il nous fait attendre. Mais il y a des moments, ben, il fallait donner une réponse quand même. Ben, il m'a donné ma réponse. Et ça m'a vraiment marqué dans ma vie. Et en fait, c'est vrai que si on veut vraiment marcher dans les voies du Seigneur, si on est honnête et sincère avec le Seigneur, il ne va pas nous laisser partir à côté. Vous le croyez ça? Il ne va pas nous laisser partir à côté. On verra, il y aura d'autres exemples. Donc, pour moi, ça a été vraiment clair. Le Seigneur a su s'adresser à moi de cette façon-là, mais pour bien d'autres, il y a d'autres façons. Je me souviens, on peut se souvenir dans les psaumes avec David, l'histoire de David, quand il a fait l'erreur de sa vie. Il y a un prophète qui est venu le voir, le prophète Nathan. Il est venu le voir et il s'est adressé à David avec l'image d'une parabole, avec cette personne qui avait une seule brebis qu'il chérissait. Il va lui raconter l'histoire et là David va réagir tout de suite au quart de tour. Et là Nathan va montrer à David, bah, tu vois, ce qui est arrivé à cet homme, c'est ce que toi tu as fait. Et là David va s'effondrer sous la parole du Seigneur. Et bien, le Seigneur a choisi de s'adresser à lui de cette façon-là. Et de la même façon, il choisit de s'adresser à nous de plein de façons différentes. Mais il va toujours choisir la bonne corde. Et Dieu peut aussi s'adresser à nous tout simplement par la Bible, dans notre lecture personnelle. Il peut nous parler au travers d'un verset. Combien de fois on vient ici donner une exhortation, un verset qu'on a déjà lu des dizaines, voire des centaines de fois, et puis oh, ce jour-là, oh, il a pris une couleur tellement différente de d'habitude. Ah, ce jour-là, ce verset, ah, oh, il m'a parlé. Ben ouais, le Seigneur nous a parlé. Mais il peut aussi nous parler par une prière. Tout à l'heure, vous avez entendu une sœur qui priait. Et puis dans sa prière, elle a cité quelque chose qui vous a touché. Ça vous arrive jamais? Ben ouais. Cette sœur, ce frère, il parlait à Dieu sans même penser à vous. Et puis, ça vous a touché. Oui, le Seigneur, il peut tellement s'adresser à nous de façon différente. Il peut aussi nous parler par des songes. Ça ne m'est pas beaucoup arrivé. Peut-être que certains, oui, le Seigneur leur a déjà parlé dans un songe. Dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples où Dieu a parlé dans un songe. Et il nous est dit que dans les derniers jours, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards des songes. Dieu parle tellement de façon différente. Et il peut nous parler aussi au travers des circonstances qu'on traverse. Les circonstances, j'aurais envie de dire malheureusement, mais c'est pas bien de dire ça. Dans Jacques, chapitre 1, verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi, Ben oui, ben Dieu s'adresse aussi à nous au travers des épreuves. Vous ne trouvez pas? Qu'est-ce qu'on en apprend au travers des épreuves? Hier, on est allé voir Christine. Je ne vais pas donner, parce qu'elle aura sûrement plein de choses à partager. Je ne veux surtout pas la devancer. Mais elle a parlé avec nous, elle a partagé de ce qu'elle vit avec le Seigneur. Suite à son opération, la douleur, tout ce qu'elle a ressenti dans son être intérieur, dans son corps. Et le Seigneur lui parle, je vous assure. On est allé la voir et puis, c'est plus elle qui est venue nous voir que nous qui sommes allés la voir. Elle nous a tellement fait du bien dans tout ce qu'elle nous a partagé. Dans la communion qu'elle vit avec le Seigneur, tout ce qu'elle vit. Et c'était tellement enrichissant, c'était super. Ben, le Seigneur utilise cette opération, toutes les douleurs qui en découlent, pour lui parler, lui apprendre des choses, remettre en question. Et combien de fois ne s'est-il pas adressé à nous dans des moments difficiles pour nous faire comprendre ce qu'il est, pour nous faire comprendre son essence, son amour pour nous? Ça vous arrive jamais? Si? Je cherche dans vos yeux. Ben oui, il s'adresse à nous. Et c'est tellement enrichissant quand, ben oui, le Seigneur, dans un murmure doux et léger, il va nous dire, tu vois, il y a longtemps que j'aurais voulu que tu le comprennes. Et bah ouais, j'ai été obligé de t'amener là pour que, enfin, tu le réalises. Maintenant, il faut que tu t'en souviennes. Il faut que ça te marque dans ton cœur. Il faut que ça se grave. Ça te servira encore bien des fois. Et Dieu parle aussi au travers de sa création. Ça vous est jamais arrivé de regarder le ciel le soir? On l'a fait il n'y a pas longtemps avec les jeunes. Hein. Lucie, elle aime beaucoup les étoiles, je ne savais pas. Hein, Michael, c'est super. Quand on regarde la beauté de sa création, vous ne trouvez pas que c'est beau? Et que nous dit l'apôtre Paul dans Romains? Ils sont donc inexcusables. Ils ont vu la création de Dieu. Tout le monde a vu le ciel un jour. Tout le monde a vu les étoiles, cette profondeur de l'univers, la lune, toutes ces coïncidences. Il y aura bientôt une éclipse, hein. Timothée me l'a appris, alors il est parti. Il m'a dit, papa, le 20 mars, il y a une éclipse. Il faudra se tenir prêt pour la voir, une éclipse de soleil, ça veut dire la lune va passer devant le soleil. Bon, on ne la verra pas complètement ici, ce sera une couverture à 80%. Mais vous êtes-vous déjà posé la question, mince? Pourquoi une éclipse peut-elle être totale? C'est la lune qui passe devant le soleil. Vous êtes déjà interrogé sur la taille de la lune et la taille du soleil? Ben ouais, la lune, comme par hasard, comme Michael aime bien dire le hasard avec un grand D, la lune est 400 fois plus petite que le soleil, mais elle est en même temps 400 fois plus proche. C'est un hasard. Si bien que quand il lui arrive de passer devant le soleil, elle peut cacher exactement le soleil. Eh ouais. Le Seigneur, il a réglé toutes les distances. Hein. Il a tout réglé. Même la Terre, elle est à la bonne distance du soleil pour qu'on ne soit ni trop chaud, ni trop froid. Je sais bien que moi, j'aimerais bien qu'elle était un petit peu plus proche. Mais bon, mais quand même... Tout est bien réglé. On est la seule planète à avoir l'atmosphère, l'eau, la vie, tout ça. Et franchement, allez croire qu'on est arrivé par hasard sur la Terre. Franchement. Hein. Il y en a qui osent le dire. Moi, j'oserais pas. C'est tellement compliqué pour qu'il y ait la vie. On n'arrive même pas à reproduire tout ça. Avec l'intelligence, les moyens d'aujourd'hui, on n'est même pas capable de reproduire un tout petit grain de vie de l'univers. Et on va nous dire qu'on est là par hasard. Franchement. Ben, c'est beau quand même toute cette création. Vous avez déjà réfléchi comment votre corps fonctionne? Comment notre œil fonctionne? La mise au point, la fermeture, l'ouverture de la rétine avec la luminosité. Moi, je mets des gouttes qui sont destinées à dilater la pupille. Et dans, là, c'est bon, j'ai fini, je ne dois plus en mettre, mais vraiment, la pupille, elle est à fond, complètement ouverte. Le mécanisme normal ne peut plus fonctionner à cause du médicament, mais on est horriblement ébloui, on est incommodé par la lumière, on n'arrive plus à faire la mise au point de près, on se rend compte de tout ce qui allait bien et qui ne va plus. Mais quand notre vue fonctionne bien, on ne s'en rend même pas compte de cette merveilleuse machine qui est rien que la vue. C'est tellement super comment ça fonctionne, on se pose même pas de questions, c'est naturel. C'est pas arrivé par hasard. Et les couleurs, vous avez déjà essayé de vous renseigner pour comment on voit en couleur? C'est merveilleux tout ça. Et c'est pas à notre disposition de voir toutes ces merveilles qui sont là. Il n'y a pas que l'infiniment grand, il y a aussi l'infiniment petit. C'est tellement beau, c'est tellement grand et ça porte incontestablement l'empreinte de notre Dieu créateur. Et ça aussi, c'est une façon que Dieu a choisie pour s'adresser à nous, pour nous titiller, nous dire « Posez-vous un peu la question, il y a un créateur derrière tout ça. Il y a forcément une intelligence gigantesque, énorme, adorable, qui a créé tout ça. » Notre Dieu est grand. La beauté de sa création nous interpelle. Dieu, c'est aussi une corde qu'il utilise pour s'adresser à l'être humain, à l'homme. Et puis, enfin, on pourrait encore en trouver plein d'autres. Hein. Je vous laisse carte blanche pour chercher d'autres moyens que Dieu a choisis pour s'adresser à nous, pour qu'on l'entende. Et il y en a même encore plein d'autres. Ça me fait sourire quand Jésus est entré à Jérusalem. Tous ceux qui ont dit « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », qui ont loué les enfants, les personnes, les disciples, mais tout le monde criait « Hosanna » à Dieu, à Jésus. Ils étaient tellement contents de voir Jésus entrer dans Jérusalem. Et les pharisiens se disent quand même « Jésus, tu vas les faire taire un peu, n'en te rends pas compte tout ce qu'ils racontent. C'est pas correct. » Et Jésus, il leur a dit « Écoutez, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Parce que, vous savez, on ne peut pas faire taire le message que Dieu a à dire à l'homme. S'ils se taisent, ce sont les pierres qui se mettront à crier. Alors, taisez-vous, laissez-les parler. C'est ça, hein, sur le fond, ce que Jésus leur a répondu. On ne pourra pas faire taire. Et de la même façon, on ne peut pas faire taire l'amour de Dieu. On ne peut pas faire taire le message de Dieu. Et si même nos bouches, on ne le fait pas, on transpire de l'amour de Dieu. On transpire et l'univers entier transpire de la puissance de Dieu. Et si on regarde objectivement, on ne peut que voir, que mesurer la grandeur de Dieu. Et tout ça, c'est pour vous dire que Dieu s'adresse à nous et il veut vraiment nous parler. Il veut tellement qu'on l'entende et il parle sur tous les canaux de communication possibles en même temps. Et on va continuer de réfléchir parce que j'ai voulu quand même qu'on s'attarde un peu sur l'œil parce que moi, ça m'a parlé. Dans Luc 11, 34, il est écrit « Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps aussi est dans les ténèbres. » C'est vrai. Dimanche passé, on est allé aux urgences. Bon, rien de trop grave, mais je vous assure que quand on voit bien, on ne se rend pas compte qu'on voit bien. Quand on commence à avoir un pépin, pourtant le reste du corps fonctionne. Mais quand on commence à être dans le brouillard, à cause d'un œil, de la vue, ben c'est vrai que tout le corps il est affecté. Parce qu'il y a plein de choses qu'on n'arrive plus à faire. Si on ne voit plus bien, ben on est sacrément gêné. Et spirituellement, c'est pareil. Parce que là, il est question de l'œil du corps. Mais pensez bien, Jésus il s'adresse à l'œil du cœur, là. Hein. Il est question de l'œil du cœur, parce que notre cœur, il a un œil, hein, on ne le voit pas, mais vous le comprenez au sens spirituel du terme. Si on ne voit pas bien le Seigneur, alors on est vraiment dans le brouillard. Et la volonté du Seigneur, c'est que l'œil de notre cœur soit en bonne santé, pour qu'on voit le Seigneur, qu'on voit le chemin sur lequel on marche. Et ça, c'est sacrément important. Parce que si on est sur un mauvais chemin, et si notre œil est en mauvais état, alors tout notre corps est plongé dans les ténèbres, dans le brouillard. Et ça, spirituellement, c'est pas bon. La vue est primordiale. Et d'ailleurs, si on regarde dans la vie de Jésus, combien d'aveugles n'ont-ils pas recouvert la vue sous l'action de Jésus ? Parce que la vue, c'est important. Combien d'aveugles n'ont-ils pas crié à Jésus ? Que je recouvre la vue ! Parce que la vue, c'est important, je vous assure. Quand on ne voit plus bien, ben on n'est pas bien. On n'arrive plus. On a eu une série noire chez nous, hein, dans le même temps que mon uvéite, il y a eu notre lave-vaisselle qui est tombée en panne, notre machine à laver qui est tombée en panne et mon œil qui est tombé en panne. J'ai passé mon dimanche après-midi à dépanner ma machine à laver. C'était un interrupteur qui n'allait plus, les mini-interrupteurs CMS, là, et il a fallu que je le dessoude et que j'en soude un autre qui n'était pas aux mêmes dimensions, je l'ai récupéré d'un autre truc, mais je vous assure, pour réussir à souder des petites bricoles de rien du tout, avec un œil qui ne va pas, c'est très compliqué. C'est dur parce qu'on n'arrive pas à apprécier les distances et on veut mettre le fer sur une patte et puis on est un petit peu à côté et on a bien du mal à positionner exactement dessus. Mais dans notre vie spirituelle, c'est pareil. Si notre œil n'est pas en bonne santé, on ne va pas faire bien les choses pour le Seigneur. On va passer à côté. On va être maladroit. Et Jésus, quand il a ouvert le livre hein, au début de son ministère, dans Luc 4, il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. » Et ça, ce n'est pas seulement les aveugles physiques, ce sont les aveugles spirituels. Et tout le temps qu'on n'a pas rencontré le Seigneur, on est aveugle. On ne voit pas. Et on commence à y voir clair quand on le rencontre. C'est pas vrai ? Et il faut qu'on se mette enfin à bien voir. Et on va maintenant creuser un peu sur comment bichonner notre vue spirituelle. Comment la soigner ? Alors c'est vrai, on prend de l'âge, j'en prends aussi, et normalement je devrais mettre des lunettes pour voir de près, que ça commence à être dur, et il y a pas mal d'hommes, ça touche d'abord les hommes, mais il y a des femmes aussi hein, qui prennent de l'âge, et ouais, la vision de près c'est compliqué. Mais le Seigneur veut que notre vue spirituelle, elle aille en augmentant de toute notre vie. Celle-là, elle ne doit pas s'user. Au contraire, tout ce qu'on traverse, ça doit faire qu'on voit de mieux en mieux le Seigneur. C'est vrai que quand on est jeune, et je le sais, on a des enfants, on a des ados, qui se posent tellement de questions pour leur vie, et c'est beau de voir qu'ils se posent des questions. Et qu'ils ont envie de ne pas passer à côté de ce que le Seigneur veut pour eux. Et c'est super. Et ils ont du mal à voir la volonté du Seigneur. Et c'est de là qu'on se rend compte que ben, nous qui avons déjà vécu beaucoup de choses avec le Seigneur, beaucoup de moments durs, mais n'empêche que ces moments durs, ils nous ont appris à voir la main du Seigneur. C'est pas vrai ? Nous ont appris à voir le doigt de Dieu qui nous guide, qui nous amène un pas plus loin. Et j'aimerais qu'on se penche un peu sur quelqu'un Ben, chez qui il y avait un paradoxe. Cet homme, il s'appelle Balaam. Vous le connaissez sûrement. Balaam, ben, il connaissait le Seigneur quand même. C'était un prophète, hein. C'était quand même pas n'importe qui. Mais il était tiraillé, ce Balaam. Et on va passer un peu de temps pour considérer son histoire. Parce que c'est un défaut que, si on est honnête, c'est un travers qu'on a aussi, nous, quelquefois. On aime bien le Seigneur, on veut marcher dans ses voies, mais bon, en même temps, pareil, il y a des choses qu'on aimerait bien faire. On sait que le Seigneur n'est pas tout à fait d'accord, c'est pas... Mais, bah, pareil quand même. Alors, on va essayer de raccrocher les deux, quoi, la volonté du Seigneur et puis la nôtre. Et c'est ce que Balaam a essayé de faire dans sa vie. Et on va regarder. Alors, on va aller dans Nombre 22. J'ai prévu une grosse lecture. Oh, si tu veux lire, ouais, je veux bien, José, c'est gentil.
Ouais, 1 à 35. Les enfants d'Israël partirent, et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tzippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madjan, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, fils de Tzippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire « Voici, un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre, et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. » Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madjan partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui apportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, « Passez ici la nuit et je vous donnerai réponse. » D'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Tzippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, « Voici un peuple est sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre. » Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre, et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent « Balaam a refusé de venir avec nous. » Jusqu'à 17 ?
35.
Jusqu'à 35.
C'est encore du travail.
Balak envoya de nouveau les chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent « Ainsi parle Balak, fils de Tzippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi. » car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. » Balaam répondit, « et dit au serviteur de Balak, « Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'or de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. » Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. » Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de l'Éternel s'enflamma parce qu'il était parti, et un ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse, et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu étroit où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà trois fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour ? Ai-je l'habitude de te faire ainsi ?» Et il répondit, « Non. » L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà trois fois ? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà trois fois. » Et si elle ne se fût point détournée de moi, je t'aurais même tué, et je lui aurais laissé la vie. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché, car je ne savais pas que tu fusses placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. » L'ange de l'Éternel dit à Balaam, « Va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. » Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Balak apprit que Balaam arrivait, et il sortit à sa rencontre jusque la ville de Moab, qui est sur la limite de l'Arnon à l'extrême frontière. Balak dit à Balaam, « N'ai-je pas envoyé auprès de toi pour t'appeler ? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi ? Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur ?» Balaam dit à Balak, « Voici, je suis venu vers toi, maintenant me serait-il de dire quoi que ce soit. Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. » Balaam alla avec Balak et ils arrivèrent à Kirjat Utsot. Balak sacrifia des bœufs et des brebis et il en envoya à Balaam et au chef qui était avec lui. Le matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Bamoth Baal, où Balaam vit une partie du peuple.
Merci, José. C'est un peu long, mais je voulais qu'on réalise les différentes étapes, parce que c'est important. Et c'est un jeu auquel on a peut-être déjà joué, ou certains pourront peut-être jouer, et je tiens à mettre en garde sur ce jeu-là. Je m'explique. Quand on regarde Balaam, objectivement, on se dit, il dit une chose, mais il en fait une autre. Il dit qu'il ne veut pas des présents, que si même Balak lui offrait tout l'or du monde, Il n'irait pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il y va quand même. Que fait Dieu face à ce genre de réaction, d'attitude? Dieu, au début, lui dit de ne pas y aller. Et si on regarde un peu plus loin, qu'est-ce qu'il lui dit, Dieu? Là, vas-y. C'est comme s'il lui disait, écoute, tu sais très bien que je ne veux pas que tu y ailles. Mais t'insistes tellement. À l'intérieur de toi, tu veux tellement y aller. Eh bien, vas-y. Pour vous dire que le Seigneur, quand on a envie d'aller sur une mauvaise voie, elle ne nous ferme pas forcément la route. Et là, les jeunes, ouvrez grandes vos oreilles. Parce que c'est un terrain qui est quand même glissant. Combien de jeunes chrétiens ou de jeunes chrétiennes ne se sont-ils pas perdus en se mettant en ménage avec quelqu'un ou quelqu'une non chrétien, en disant « Oh, il va se convertir, elle va se convertir, mais si, elle vient à l'église, il vient à l'église, tu vois pas, garde, il se rapproche du Seigneur quand même. » Et puis, il y a des versets, que sais-tu femme, si tu sauveras ton mari? Mais il y a plein d'autres versets qui ne vont pas dans ce sens-là. Et si on n'est pas honnête, on peut trouver dans la Bible des versets qui disent ce qu'on a envie de dire. Et Balaam, c'est un peu à ce jeu-là qu'il a joué. Il savait très bien ce que Dieu voulait. Mais à l'intérieur de lui, il bouillonnait d'autres choses. Il disait des choses de sa bouche, mais à l'intérieur de lui, il avait envie quand même d'aller voir Balak, cet ennemi du peuple d'Israël. Et tu sais, si vraiment tu as envie d'aller goûter au monde, ben le Seigneur il va dire, vas-y. Qu'a fait le père du fils prodigue? Est-ce qu'il a dit à son fiston, il n'y est pas question, tu rentres à la maison, je ferme la porte, tu ne sortiras plus. C'est ce que moi je serais tenté de faire, je vous assure. Ben, le père du fils prodigue, il a dit, ben, allez, ben, tiens ton héritage, vas-y. Il a pleuré. Hein. Mais Dieu fait la même chose. Tu veux y aller? Moi, je ne veux pas, parce que quand même, si on regarde bien l'histoire de Balaam, vous l'avez lu, je ne vais pas le relire, plusieurs fois, c'est revenu, hein, Dieu a été clair, je ne veux pas que tu y ailles. Mais Dieu voyait bien que ça bouillonnait tellement à l'intérieur de Balaam, qu'il lui a dit, ben vas-y. Jusqu'au moment où même, avec l'épée devant l'ange qui était devant l'âne, parce que Balaam ne voyait même plus Dieu. Il avait déjà choisi des lunettes de soleil tellement noires qu'il ne voyait plus le soleil. Il avait choisi de s'aveugler. Il ne voyait même pas l'ange qui était devant lui. L'âne, lui, le voyait. Trois fois, il s'est détourné. Et l'ange a dit à Balaam, « Je ne veux pas que tu y ailles, c'est un mauvais chemin. » Et paradoxalement, juste après, « Allez, vas-y, tu veux tellement y aller. Tant pis, mais vas-y. » C'est bizarre ce paradoxe. Hein. Quand on lit l'histoire, moi je me dis, bah, un coup le Seigneur il dit de ne pas y aller, après il lui dit d'y aller, mais il se passait des choses. Dieu voyait très bien le cœur de Balaam, et ce n'est pas traduit dans le texte, mais je pense que Dieu voyait le bouillonnement dans le cœur de Balaam. Balaam ne s'était pas encore incliné devant Dieu, n'avait pas encore décidé d'obéir. Alors bah, Dieu lui répond à son cœur. Tu veux y aller, vas-y. Mais tu ne diras rien d'autre que ce que moi je te dirai. Et dans notre vie, nous plus âgés, mais les jeunes aussi, si tu veux vraiment aller goûter au monde, si tu veux vraiment te mettre sous un joug mal assorti avec ce gars, avec cette fille, Dieu ne va pas forcément fermer toutes les portes. Ah, tu vas t'en rendre compte, ça c'est sûr. Il va te parler. Il va toucher ta conscience. Tu vas le voir. Mais si tu n'es toujours pas disposé à obéir de tout ton cœur, bah, tu vas y aller. Tu vas franchir la barrière. Tu vas ouvrir la porte. Tu vas aller sur ce chemin qui est mauvais pour toi. Dieu te l'a dit. Mais il va te laisser y aller. Tu vas apprendre des choses. Tu vas apprendre à tes frais. Ça va te coûter cher. Mais tu vas apprendre. Et puis, quand tu reviendras de ce chemin-là, tu auras compris que l'obéissance, la soumission à ce que le Seigneur te dit, elle est importante. Il n'y a pas longtemps, on a rencontré une jeune, je ne vais pas aller dans les détails, hein, qui nous a raconté son témoignage et ça traduit ça. Elle a choisi un mauvais chemin. Aujourd'hui, elle est revenue de ce mauvais chemin. Elle s'en est vraiment repentie. Mais ça coûte cher. Ça coûte cher. Et on ne peut pas dire que Dieu ferme forcément toutes les portes. On l'a vu avec Balaam. Si vraiment tu veux y aller, bah tu vas y aller. Mais Dieu t'aime tellement qu'il... ça va lui faire mal au cœur. Mais il ne va pas te lâcher quand même. Après, si tu veux vraiment garder tes lunettes d'aveugle, n'en tiennent qu'à toi, hein. Mais c'est dommage. C'est pas ce que Dieu voulait pour toi. C'est pas ce que Dieu voulait pour Balaam. Hein. Mais Dieu tient compte de notre volonté. Dieu tient compte de ce qu'on veut. Et sinon, on a envie d'être aveugle. Ben, on va être aveugle. Il va aller dans notre sens. Hein. Et ça, c'est vraiment une voie qui doit... On a des exemples dans la Bible et ça sert pour notre instruction. Et c'est quand même sacrément mieux et plus rapide de choisir de se soumettre que de choisir de continuer d'en faire qu'à notre tête. Ça va plus vite quand même pour apprendre. Et donc on a besoin de voir clairement le chemin sur lequel on marche. Et tout à l'heure, j'ai joué le début du chant « Sonde-moi, ô Dieu ». C'est dans le psaume 139, versets 23 et 24. Si on est honnête avec Dieu, quand on choisit un chemin, est-ce qu'on est capable de chanter ce chant « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Mon cher jeune ou plus âgé, si tu prends une décision, est-ce que au moment où tu prends la décision, tu ouvres vraiment tout au Seigneur? Est-ce que tu es capable de lui dire « Bah ouais Seigneur, vas-y, sonde-moi. » Ou est-ce que comme Adam et Ève, tu vas aller te cacher? Parce que quand ils ont péché, quels sont les premiers symptômes? C'est qu'ils sont partis se cacher. Ils savaient bien qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et au lieu de rester à la lumière de Dieu, ils ont éprouvé le besoin de se cacher. Et ça, c'est un indicateur. Si quelque part, tu éprouves le besoin de te cacher de Dieu, alors c'est qu'il y a un problème. C'est que tu choisis de mettre des lunettes sombres pour plus voir la lumière. Et ça, c'est un indicateur. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais conclure. Où en es-tu personnellement? Toi, mon frère, ma sœur, mon plus jeune. Aujourd'hui, on est à une époque où on connecte tout, hein. Ben, la question, est-ce que tu es connecté au Seigneur? Est-ce que tu es suffisamment connecté pour rester objectif sur la voie sur laquelle tu te trouves. Est-ce que tu as vraiment la bonne vision? Est-ce que si Dieu était là, tout près, comme il l'est en vrai, mais est-ce que tu l'accepterais? Est-ce que tu pourrais lui dire, bah ouais Seigneur, regarde, tu vois, tout est là. Tu peux tout regarder. Ou est-ce qu'il y a des endroits que tu dis, non, ça, non, patouche. S'il y a des patouches, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu choisis de cacher des choses. Ça veut dire que tu te mutiles volontairement. Tu t'empêches de voir. Et tu joues à Balaam. Est-ce que tu es suffisamment en relation avec Dieu pour l'entendre et le voir dans ta vie? Est-ce que tu l'écoutes, tu le regardes, tu le vois? Il y a un verset qui est un peu marrant, c'est « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. » Vous savez, les miroirs de l'époque, c'est marrant parce que quand on peut se dire, mais quand on se regarde dans un miroir, on se voit bien quand même, c'est notre véritable image. Mais à l'époque, les miroirs, ce n'étaient pas les beaux miroirs qu'on a aujourd'hui. C'était de l'acier poli, tant bien que mal, et on arrivait à voir quoi dedans, mais pas une super image. Et l'apôtre Paul nous dit, quand on sera là-haut, on le verra vraiment tel qu'il est. Mais si on est vraiment honnête, clairvoyant, objectif, sous l'inspiration de l'Esprit du Seigneur, on peut s'introspecter et se regarder et se voir comme Dieu nous regarde. Est-ce que ça te dérange, ce regard de Dieu, dans ta vie? Si ça te dérange, ben c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est embêtant. Alors je voudrais qu'on s'arrête là. Et moi, je propose qu'on chante ce chant, « Sonde-moi, ô Dieu », puis on s'arrêtera là après. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Et que vraiment chacun, on réfléchit à où on en est avec le Seigneur. Est-ce qu'il y a des domaines dans ma vie que ben, je n'ai pas trop envie que le Seigneur y mette son nez? Est-ce qu'il y a des choses qui me dérangent? Enfin, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit. Mais qu'on se place vraiment devant le Seigneur et qu'on le regarde. Qu'on le regarde droit dans les yeux. Ok? Et souvent, ben, on fait ça en fermant les yeux, c'est paradoxal. Mais oui, parce qu'au moins on se laisse distraire par rien. Et on se concentre sur ce que Dieu a à nous dire. Parce que c'est sûr, il a des choses à nous dire. Alors on va l'écouter et que chacun se, d'une façon infiniment personnelle, « Seigneur, sonde-moi et regarde, regarde-moi et je veux être dans cette voie de l'éternité. » D'accord ? Amen.